Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la vaccination. D'un côté, comment s'organisent les campagnes de vaccination en prévention comme en réponse à des flambées épidémiques. Mais au-delà de cette réponse concrète pour protéger la santé des populations et en particulier des enfants, en fonction d'une cartographie des infections, parler de la vaccination aujourd'hui, c'est aussi évoquer son acceptation, la façon dont la communauté perçoit l'administration d'un produit à ses fins de prévention. Le XXe siècle a donné lieu à des innovations essentielles en matière de vaccination et à changer durablement la perception du péril infectieux. La défiance vis-à-vis des vaccins a pris une dimension nouvelle lors de la pandémie de Covid, mais nous le verrons au cours de l'émission, la planète n'avait pas attendu l'année 2020 pour qu'apparaissent les critiques, voire la franche hostilité aux vaccins. Vaccination, état des lieux, organiser, convaincre, documenter cette vaccination et comprendre comment les citoyens en viennent à accepter la fameuse piqûre. Les mécanismes du consentement pour un enjeu de santé publique, c'est notre sujet du jour dans Priorité Santé. Et histoire d'un consentement, c'est le sous-titre de votre livre qui s'intitule « Vaccination ». Tout simplement, histoire de la vaccination en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gaëtan Thomas, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes historien des sciences, membre du Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société et du Media Lab, laboratoire de recherche interdisciplinaire de Sciences Po, où vous enseignez. Votre livre Vaccination, on peut le signaler, est publié aux éditions du Seuil. Vaccination préventive et réponse aux flambées épidémiques. On va donner tout à l'heure la parole au docteur Mamadi Traoré. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes au sein de Médecins Sans Frontières, responsable du pôle de réponse aux épidémies et référent vaccination. Et pour témoigner, poser les questions sur la vaccination, notre numéro WhatsApp bien sûr, c'est le 33 7 61 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Et pour commencer cette émission, on va donc parler de ces cas de choléra à Mayotte, département français de l'océan Indien, une flambée avec des premiers cas identifiés au nord de Mamoudzou, la capitale, hein, sur place, avec un décompte des cas de l'infection à la hausse ces derniers jours, ce qui a conduit les autorités sanitaires à augmenter l'offre de soins. On en parle tout de suite avec le directeur de cabinet de l'Agence régionale de santé de Mayotte, Bastien Morvan, bonjour.
Bonjour.
Je précise que cet entretien a été enregistré. En ce début de semaine, Bastien Morvan, combien de cas sont comptabilisés ?
Donc on comptabilisait dimanche après-midi 26 cas confirmés de choléra à Mayotte.
Alors sur place, les premiers cas ont été importés par des personnes en provenance de l'archipel voisin des Comores. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, on parle bien de cas autochtones.
Tout à fait, oui. Les derniers cas là, qu'on a identifiés, notamment ces deux derniers jours, ce sont des cas autochtones donc on a identifiés sur la commune de Kungu, au nord de Mayotte, et qui mobilise aujourd'hui tous nos efforts d'intervention.
Est-ce que l'ensemble des personnes qui sont porteuses de la maladie aujourd'hui ont été transférées vers des centres hospitaliers ou des structures de soins ?
Systématiquement. La logique et la doctrine qu'on a définie initialement, avant même qu'on ait les premiers cas confirmés à Mayotte, qu'ils soient importés ou autochtones, l'idée et la logique est bien définie et la suivante à Mayotte. C'est un, confirmation des personnes et extraction à l'hôpital. Et deux, intervention rapide des équipes, notamment de l'ARS, au niveau des foyers pour, d'une part, identifier les cas contacts, les traiter avec antibiotiques, les vacciner les foyers alentours et désinfecter les foyers et émettre les recommandations sanitaires aux alentours.
On perçoit bien donc la double logique sanitaire vers le centre de santé et à la fois quelque chose en porte-à-porte au plus près des familles, justement pour éviter une propagation.
Tout à fait. Sur cette logique de porte-à-porte, c'est bien de l'intervention, j'allais dire, réactive et en aller vers, aujourd'hui qui se déploie notamment à Kungu, donc dans cette commune qui nous occupe, selon, j'allais dire, trois modalités pour le résumer. Une modalité de vaccination importante dans le quartier, l'ouverture d'un centre de dépistage dans la commune et j'allais dire l'organisation de Maraude avec les associations avec lesquelles on travaille régulièrement, qui sillonnent le quartier, diffusent des recommandations sanitaires et orientent vers les dispositifs qu'on met en place sur le terrain.
Dans quel état se trouvaient les personnes quand elles ont été admises dans les structures de santé? Elles étaient porteuses de quels symptômes et avec quel état physique? Parce qu'on sait que le choléra, le grand danger, c'est une déshydratation massive et mortelle.
Tout à fait. On a toute une gradation et tout un gradient de symptômes des personnes porteuses du choléra, donc avec soit légère diarrhée, soit diarrhée un peu plus importante, voire même des fois des personnes qu'on prend en charge et qui sont asymptomatiques, mais qu'on a prises en charge sur la base d'un dépistage positif ou d'une PCR positive.
Est-ce que des soignants et des renforts médicaux vont arriver dans le département ultramarin?
Alors, on a déjà des renforts qui sont présents à Mayotte, tant au niveau de l'hôpital, aux côtés des soignants du CHM, les unités choléra, parce qu'on en a ouvert une deuxième ce week-end, qu'aux côtés de l'ARS pour ces interventions massives de terrain et notamment de vaccination. Et on a des renforts supplémentaires qui viendront dans les jours à venir.
Est-ce qu'il y a des précédents en termes d'épidémie de choléra sur place?
De mémoire, les derniers cas de choléra qui avaient été identifiés à Mayotte remontent au début des années 2000. Depuis, on n'avait pas eu de cas de choléra confirmés sur le territoire.
Dans tout cas de choléra, bien sûr, on cherche l'origine de la contamination. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait précisément comment ces personnes se sont contaminées?
Non, je ne serai pas en capacité de vous répondre sur comment les personnes se sont contaminées. La qualité de l'eau sur les points d'accès à l'eau publique et sur le robinet individuel est exactement la même puisqu'il est alimenté par la même eau produite par le distributeur.
Ça veut dire que les personnes qui sont aujourd'hui en dehors de ces quartiers peuvent continuer à boire de l'eau sans s'inquiéter d'une éventuelle contamination?
Alors, si elles consomment l'eau de ces points d'accès à l'eau publique. Effectivement, après, l'enjeu, c'est que ces personnes ne consomment pas d'eau non contrôlée, c'est-à-dire l'eau de la rivière, l'eau du puits, qui ne font pas partie du réseau d'eau surveillé. Donc nous, notre travail, c'est d'orienter au maximum les personnes qui n'ont pas de robinet chez elles vers ces points d'accès à l'eau publique. De dire aux personnes qui habitent aux alentours de ne pas consommer cette eau. Enfin, c'est le premier message qu'on a à faire passer. Faire en sorte que les personnes ne tombent pas malades ou soient prises en charge. Donc notre priorité d'intervention, c'est la vaccination et l'orientation vers les dispositifs de prise en charge hospitalière.
Merci beaucoup Sébastien Morvan. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet de l'Agence régionale de santé à Mayotte. Et avant de retrouver nos invités pour parler de la vaccination à l'occasion de la Semaine européenne de la vaccination, tout de suite Richard Bonnat avec ce titre « Il y avait quoi avant ?» dans Priorité Santé sur RFI.
Il y avait quoi avant ? Il y avait quoi avant ? Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Banagande Gondo.
Il y avait quoi avant?
Sungona Tekempade.
Il y avait quoi avant? On avait Cameroun Airlines.
Yeah, combi.
La régie faire cam.
Come and go.
Sodekao dans l'eau.
Wopalo.
La sonnelle est partie.
Chéné.
Fonader, on a mis à terre.
McDo.
Kamchi avec Roi Bateau.
Que quoi?
Aujourd'hui c'est dans l'eau.
Hey.
Sophie Belle, Nina Bellabo.
Subhanallah.
Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant?
Mamaï.
On avait sauté que c'est cadu. Une aloro n'allume plus.
Ça chauffe plus.
Roi d'auteur, c'est le couvre-feu.
Là alors.
Les enseignants sont matés.
Massa.
Qui a brûlé la sonara?
Hey.
Soudain Kamo en Kondjok. Soudain Blé en Gambéré. Et la CNPS fait la muette.
Woko, 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 woman. Le ninja va parler.
Kumbalok moyen. Woga moyen.
Nous gardons 2 ans au pouvoir.
Oh, yeah, yeah.
Plus jamais ça.
Oh, yeah, yeah.
42 ans de misère.
Oh, yeah, yeah.
Nous voulons plus.
Oh, yeah, yeah.
Les fontaines publiques étaient là.
Oh, yeah, yeah.
Maman, on avait ça.
Oh, yeah, yeah.
À 25 francs, je prends son duc.
Oh, yeah, yeah.
Maman, c'était le prix.
Oh, yeah, yeah.
Waco, go, go, go.
Oh, yeah, yeah.
je vais parler. Il n'y avait pas besoin de tribaliser, même pas d'ératiser. La CNI, on avait ça. C'est pas comme maintenant. Avec Pakakoe, on a boué. Woko, on a boué. N'allez pas au Nozo Ninja. Vous êtes entêté. Oyaya, oyaya, avec Pakako, on a boué. Woko, dégagé.
Oyaya,
hey, Koro. C'est ça qu'on appelle comme Manga Kumba ?
La vaccination, un acte de santé publique. Notre sujet du jour dans Priorité Santé pour contrôler, voire éliminer certaines maladies infectieuses. Votre livre, Gaëtan Thomas, La vaccination, histoire d'un consentement, et il permet en quelque sorte de remonter le temps pour comprendre comment la vaccination a été d'abord organisée et puis perçue, accueillie. On va directement à la fin, à la conclusion. On arrive à la période actuelle. Vous insistez sur le fait que le numérique, la communication numérique aujourd'hui a vraiment bouleversé la donne. Bien sûr, ce livre ne s'intéresse pas prioritairement, hein, loin de là, à la période Covid. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, notamment, un écho très particulier, très spécial est donné aux personnes qui sont plutôt contre la vaccination et que cet écho, dans les faits, il ne reflète pas l'adhésion de la population à cette vaccination.
Oui, ce qui est très frappant depuis quelques années, c'est qu'il y a une politisation très forte de la vaccination en France et ailleurs. Hein. Les gens parlent beaucoup de vaccination, y compris sur les réseaux sociaux. Mais cette politisation qui inquiète les autorités de santé publique, elle ne se traduit pas forcément par des mauvais taux de vaccination. Donc une des énigmes qu'essaie de résoudre le livre, c'est comment est-ce que la vaccination a tenu malgré cette politisation. Qu'est-ce qui fait que la vaccination continue à s'imposer aux individus alors qu'elle semble en danger ?
Alors justement, ce bilan positif dont vous parlez, il y a une étude de Santé publique France qui a été publiée la semaine dernière. Elle montre que les vaccins suscitent 80% d'adhésion, 80% des personnes interrogées se disent plutôt favorables. Vous, vous avez un regard plutôt critique sur ces enquêtes d'opinion, la vaccination, qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi ?
Eh bien parce qu'il y a cette tendance depuis les années 2010 qui a été soutenue en partie par l'Organisation mondiale de la santé autour de la notion d'hésitation vaccinale, qui est une notion qui est soutenue par l'OMS, qui vise à réduire le problème de vaccination à un problème de représentation des individus. Or, ce que montre l'histoire de la vaccination en France, à l'étranger, en Afrique notamment, c'est que la vaccination s'est imposée à travers un travail sur la matérialité même de la vaccination et notamment en réduisant le nombre des injections. C'est parce que la vaccination est l'intervention la plus simple de santé publique qu'elle a souvent emporté. Donc réduire la vaccination à un problème de représentation, c'est passer à côté de cette histoire, en fait.
Ça veut dire que vous êtes plutôt d'accord avec ce que dit la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui plaide pour un renforcement d'une simplification. Ça veut dire que plus on va faire rentrer la vaccination dans les mœurs, plus on va simplifier, plus on va par exemple rappeler quand est-ce que doivent avoir lieu certains rappels vaccinaux pour justement faire y venir davantage de personnes. Il parle, hein, la HAS, j'ai du mal avec ça, de deux populations en particulier, les adolescents et puis les personnes âgées.
Oui, si vous voulez, si on prend beaucoup de distance vis-à-vis de la vaccination, on s'aperçoit au cours de l'histoire que ce n'est pas forcément la seule méthode préventive qui est disponible. Mais c'est évidemment la plus simple. Se faire vacciner, une injection, il n'y a pas de problème, ça va vite. Or, quand il y a trop d'injections, la vaccination fonctionne beaucoup moins bien. Les individus ont beaucoup plus de mal à accéder au rappel. Donc, un des grands problèmes de santé publique qui a émergé dès les années 50, en France, mais aussi en Afrique, dans les années 60, avec l'OCEAC, l'OCCGE, des institutions qui s'occupent de santé publique en Afrique, c'était de comment on simplifie la vaccination. D'une part, en faisant des vaccins combinés, d'une part, en réduisant le nombre de rappels à travers des calendriers vaccinaux qui sont rationalisés,
parce
le plus simple possible.
Pour pas que les parents, en quelque sorte, oublient les rappels, mais aussi parce que c'est, des fois, il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres, notamment de brousse, pour aller faire vacciner les bébés.
Oui, parce que c'est simplement impossible d'administrer tous ces rappels. Donc, une des grandes questions de santé publique, c'est comment on réduit les injections, soit en combinant, soit simplement en faisant des vaccins qui sont plus puissants, en faisant sauter des rappels, en démontrant que que tous les rappels ne sont pas forcément nécessaires, en faisant des études très précises sur les effets immunologiques des vaccins.
Alors, il y a beaucoup de questions de vocabulaire, il y avait des vaccins recommandés, et puis il y a des obligations hein, dans un pays comme la France, Gaëtan Thomas. Là aussi, il y a une forme de paradoxe, parce que vous dites que cette obligation, elle existe, et ça a même été notamment augmenté récemment, justement, avec aujourd'hui, combien, 11 ou 13 vaccinations obligatoires ? 13 vaccinations obligatoires. Malgré tout, c'est obligatoire, mais les sanctions, non seulement elles sont très rares, mais si on regarde du côté, on va dire, des contraventions, ça, c'est très faible. Finalement, c'est pas parce qu'on a peur du gendarme qu'on va se faire vacciner.
Il y a plusieurs raisons qui expliquent, au cours de l'histoire, que la loi ne permet pas forcément de résoudre le problème de la vaccination dans son ensemble. D'une part, c'est parce que l'État, souvent, n'avait une connaissance très partielle de l'état de la vaccination dans la population, notamment parce que les outils statistiques n'étaient pas suffisamment efficaces pour savoir combien de personnes étaient vaccinées. D'autre part, c'est parce que la vaccination, dans l'histoire française, mais pas simplement, entre en contradiction avec un principe fondamental fort qui est l'obligation scolaire. On vaccine essentiellement des enfants ou des nouveau-nés. Et interdire l'accès à l'école des nouveau-nés non vaccinés et des enfants non vaccinés, en fait, ça met en péril un des fondamentaux de la République. Mmh. Donc l'État a décidé d'accorder une marge de mou, enfin d'accepter que les individus puissent quand même accéder à l'école et puissent échapper à l'obligation vaccinale.
Alors, vaccination au long cours, vaccination d'urgence. Double logique, avec une organisation comme la vôtre, un Médecins sans frontières. On vous retrouve en ligne, je rappelle, vous êtes référent vaccination MSF, docteur Mamadi Traoré, on vous retrouve responsable de ce pôle de réponse aux épidémies. Justement aujourd'hui, quelles sont les campagnes en cours ? Tout à l'heure, on a évoqué le choléra à Mayotte. Là, ce sont les autorités de santé françaises qui prennent les choses en main. Par exemple, pour le choléra aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres zones de la planète qui sont particulièrement concernées ?
Oui, écoutez, aujourd'hui, le choléra, il y a des épidémies de choléra au Burundi, en Zambie, en République démocratique du Congo et au Yémen également. Ces pays font face au choléra et comme vous le savez, ce qui concerne le choléra, c'est il y a un problème d'accès aux vaccins parce qu'il y a un problème de production et la demande est largement supérieure à l'offre.
Ça veut dire que derrière ce problème de pouvoir donner suffisamment de vaccins à toutes les personnes qui en auraient besoin, il y a une logique financière parce qu'il y a un grand producteur de vaccins qui a décidé en quelque sorte d'arrêter parce que ça ne rapportait pas assez. Hein. C'est bien ça, docteur Traoré.
Oui, il y a ça. Et si on regarde un peu plus en profondeur, le choléra, c'est un marqueur de pauvreté.
Oui.
C'est un marqueur de pauvreté et c'en est tout ce que la population pauvre, ceux qui sont marginalisés, ceux qui vivent dans les bidonvilles, ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui n'ont pas accès aux latrines. Et il y a très peu de risques pour les pays développés également. Et du coup, il n'y a pas trop de volonté politique de part et d'autre pour financer beaucoup plus pour avoir suffisamment de vaccins pour protéger sa population.
Et dans ce qu'on observe justement dans ces pays que vous citez, c'est que plusieurs d'entre eux reviennent sur plusieurs flambées infectieuses. Vous avez notamment cité tout à l'heure la République démocratique du Congo, c'est vrai pour plusieurs infections en cours auxquelles font face les populations. C'est vrai aussi pour un pays, un jeune pays, le Soudan du Sud, hein, docteur Traoré. Quelles infections sur place actuellement et quelles vaccinations d'urgence ?
Au Soudan du Sud, actuellement, il y a la rougeole en cours et également il y a l'hépatite E en cours. Mm-mm. Et il y a quelques cas suspects de méningite qui ne sont pas encore confirmés. Et voilà. La vaccination contre la rougeole est en cours et nous-mêmes, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous avons fait 2 tours de campagne de vaccination contre l'hépatite E.
Et le Nigeria, c'est aussi pour vous, MSF, une zone d'intervention.
Exactement. Au Nigeria, on appuie le ministère de la Santé. Comme vous le savez, actuellement, il y a l'épidémie de diphtérie en cours au Nigeria. Nos équipes travaillent en collaboration avec le ministère de la Santé. Non seulement la prise en charge est appuyée sur la vaccination si nécessaire. Et également, comme vous le savez, tout le Nigeria a été le premier pays à importer le nouveau vaccin contre la méningite, qui est le MEN-5. Il y a quelques semaines, ils ont fait la vaccination et nos équipes, pas seulement que le Nigeria, il y a la méningite juste à côté du Nigeria, au Niger, et nos équipes sont en train de travailler avec le ministère de la Santé comment vacciner également contre la méningite à Niamey.
RDC, Soudan du Sud, Nigeria et même le Yémen, on comprend bien tout le problème de l'accès aux populations, de la situation sécuritaire. Et c'est vrai que pour vous, à MSF, hein, ça joue un rôle important, docteur Traoré, dans la résurgence de certaines infections.
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, si on regarde, il y a eu des progrès en termes de vaccination. Mais de nos jours, comme on le sait tous, la pandémie Covid a été un facteur aussi qui a permis d'affecter les efforts déjà fournis, et d'où la résurgence des différentes épidémies en cours. Et il faut dire, il y a des initiatives actuellement en cours pour rebooster la couverture vaccinale dans différents pays. Ça, c'est quelque chose d'important, mais le plus important, comment maintenir la couverture vaccinale élevée? Parce qu'on peut mettre des ressources, faire des campagnes de vaccination, des rattrapages pour booster la couverture vaccinale, mais sur le long terme, c'est difficile de maintenir. D'où, il y a certes eu des efforts de fait, mais un engagement supplémentaire est nécessaire auprès des différents gouvernements, ainsi que les différents partenaires pour faire du rattrapage vaccinal une action pérenne, c'est-à-dire toute personne qui rentre en contact ou qui se présente au niveau d'une structure sanitaire, que son statut vaccinal puisse être vérifié, voir s'il a besoin, s'il est à jour de son calendrier, si son calendrier vaccinal est à jour, sa vaccine n'est pas à jour, lui donner les doses dont il a besoin.
Ça veut dire que c'est loin d'être une évidence, il faut chaque fois y revenir, chaque fois sensibiliser, informer, poser les bonnes questions. On a une question Facebook de Siméon, très concret. Et Siméon, il vit en RDC, il nous a écrit ce message sur Facebook, je vous le lis. À Lubumbashi, certaines familles doivent faire de longs voyages pour faire vacciner leurs enfants. D'où cette question. Comment prévenir et gérer les effets secondaires, comme la fièvre chez les tout-petits, pendant le trajet du retour? Question très concrète, docteur Mamadi Traoré. On imagine une maman qui part avec un bébé qui a à peine quelques semaines, elle a peur de la fièvre au retour. Qu'est-ce que vous lui dites?
Écoutez, comme vous le savez, la plupart des vaccins n'entraînent que des effets secondaires mineurs, c'est-à-dire la douleur au niveau du site d'injection ou la fièvre. Là, si c'est maman, ce que je conseillerais principalement, une fois qu'ils sont en face des agents de santé, les agents vaccinataires, de poser le problème. On sait que c'est très simple, le paracétamol peut aider dans ce sens. Mais d'engager ces dialogues avec les agents vaccinataires, afin de leur donner des solutions appropriées. Voilà.
Et aussi rassurer, hein, dire que cette fièvre, elle est liée ponctuellement à une petite réaction à la vaccination, et ce n'est pas pour autant que le bébé est tombé malade. C'est aussi un effort justement d'explication.
Tout à fait, tout à fait. Parce que ce qui soutient beaucoup plus la résistance à la vaccination, c'est le manque d'informations sur la maladie et sur les vaccins. Parce que quand on explique la maladie aux populations, ainsi que à quoi ça sert le vaccin et quels sont les effets secondaires, combien de doses l'enfant aura besoin, cette bonne compréhension, explication permettra à la population d'y adhérer. Et nous, c'est sur ça qu'on s'appuie. Notre approche est beaucoup plus centrée sur la communauté.
Et sur la pédagogie. Gaëtan Thomas, cet auditeur, hein, Siméon de Lubumbashi, intègre donc la notion d'effet secondaire quasiment comme partie intégrante d'une vaccination infantile. Vous analysez, vous, longuement cette dimension dans votre livre, tout comme d'ailleurs hein, certains accidents vaccinaux qui ont marqué l'histoire, la réponse des autorités sanitaires face à ce type d'événement. Parce que c'est vrai, il a fallu un certain temps pour que s'organise une véritable pharmacovigilance des vaccins.
Oui, les effets secondaires en matière de vaccination sont très rares, en particulier les plus graves, mais ils ne sont pas inexistants. Ils sont de plus en plus rares car les vaccins sont de plus en plus performants. Mais il y avait un problème dans les décennies d'après-guerre autour de la vaccination, notamment contre la variole, qui était très réactogène. Et il y a eu des effets secondaires spectaculaires. Et une des façons, en fait, de normaliser la vaccination, ça a été pour l'État de reconnaître l'existence de ces effets secondaires, pardon, et de proposer une forme d'indemnisation qui apparaissait juste aux yeux des familles et de la société. C'est une évolution qui a pris des décennies, qui a commencé en 1964 avec une loi qui permettait l'indemnisation des effets secondaires, mais c'était une loi qui était pleine de restrictions. En France, on ne pouvait se faire indemniser si on a été victime d'un accident vaccinal grave qu'à condition d'avoir été vacciné dans un centre agréé par l'État. C'est cette clause qui a sauté à l'initiative de Simone Veil en 1975. Une nouvelle loi est passée. Et puis, on a mis en place des dispositifs d'indemnisation à l'amiable. Et c'était très important dans beaucoup de pays occidentaux, pour améliorer aussi l'acceptabilité de la vaccination, que l'État accompagne les très rares victimes d'accidents secondaires. D'ailleurs, il y a une mobilisation qui a dépassé les cercles des militants anti-vaccinaux, puisque la presse a beaucoup couvert en France les accidents dans les années 70, y compris Le Monde, qui était un journal assez proche du mandarin médical.
Donc des plus grands médecins. Donc ne pas aller vers le déni, mais bien entendre ce qui a besoin d'être dit. On va rester en République démocratique du Congo pour donner la parole à Franck. Franck, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes en ligne de Butembo, hein, dans le Nord Kivu, vous avez 31 ans. Vous avez en particulier des questions sur le vaccin contre la polio, on vous écoute. Allez-y Franck.
Merci madame, en fait j'ai deux petites questions concernant la maladie du poliomyélite, alors la vaccination. La première, c'est que pourquoi il y a cette récurrence de la vaccination contre la poliomyélite chez nous en RDC? Parce que l'année passée, il y a eu autour de 6 campagnes, si je ne me trompe pas. Et la deuxième question qui découle, la première, c'est que combien de doses faut-il pour immuniser l'enfant contre cette maladie?
Vous dites l'enfant, ça veut dire que ces campagnes de vaccination contre la polio dans votre zone de Butembo, donc, dans l'est de la RDC, la plupart du temps, ce sont donc les enfants qui vont se faire vacciner.
C'est ça, oui. Des enfants de 0 à, je pense, 5 ans.
D'accord. Et vous entendez ce qui se dit autour de cette vaccination? Les populations, elles sont plutôt d'accord pour vacciner les enfants ou il y a une petite forme de résistance? Il y a des questions qui se posent?
C'est au fait ça, cette résistance, parce que nous pensons que oui, il y a la population qui pense qu'il y a un plan machiavélique derrière cette multiplication des campagnes de vaccination.
Et ces croyances, elles viennent d'où? Qui les colporte? Qui en discute?
Bon, c'est beaucoup plus les mamans, parce que quand c'est multiplié, elles se demandent c'est quoi l'intention derrière.
Pourquoi est-ce qu'on vaccine autant? On va faire des réponses simples à des questions qui sont simples. Docteur Mamadi Traoré, c'est vrai, on a cet auditeur qui se dit pourquoi est-ce qu'on vaccine aussi souvent? Peut-être tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'enfants à vacciner, non?
Il y a beaucoup d'enfants vaccinés, il n'y a pas que ça, et il est conseillé d'administrer plusieurs doses de vaccins antipoliomyélite aux enfants.
Ouais.
Ces vaccins sont conçus pour être administrés plusieurs fois pour assurer une protection complète.
Le schéma vaccinal, c'est combien d'injections?
Dans le PEF de routine, il y a 3 injections et polio oral. Il y a certains pays également qui viennent d'introduire le vaccin injectable. Et là, c'est recommandé 2 doses. Et ça, c'est également qu'il y a des poliovirus circulants dérivés du vaccin. Et quand ça s'est identifié dans un pays, il faut faire des campagnes pour pouvoir éliminer ces poliovirus circulants dérivés du vaccin. C'est à cause de ça, il y a plusieurs campagnes parce que il y a 3 sérotypes. Il y a 3 sérotypes du poliovirus, le 1, le 2 et le 3.
Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut soit avoir une piqûre, soit avaler un produit différent?
Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a le poliovirus 1, 2 et 3 qui sont... c'est le vaccin poliovirus injectable qui protège contre les 3 sérotypes en même temps. Et les vaccins oraux protège contre soit 1 ou 2, dépendant de la politique du pays. Et dans les pays où la surveillance épidémiologique a mis en évidence les poliovirus circulants, dérivés du vaccin qui circule dans, soit c'est une personne ou dans les eaux usées, on mène également des campagnes de riposte afin de répondre à cette épidémie, parce que ça constitue également une épidémie.
Maladie compliquée, donc réponse vaccinale un petit peu compliquée. C'est vrai, Gaëtan Thomas, il faut vraiment de la pédagogie, surtout quand il y a de la désinformation qui circule.
Ouais, concernant la poliomyélite, je voudrais faire deux remarques, si je peux me permettre. La première, c'est qu'il y a une insistance très forte de la communauté internationale sur l'éradication de cette maladie depuis la fin des années 80, dans la suite de l'éradication de la variole. Mmh. L'idée que la poliomyélite est éradicable est néanmoins contestée, débattue par les spécialistes, mais elle s'est diffusée dans le grand public, ce qui donne quand même, ce qui a mis une lumière très forte sur cette maladie, malgré toutes les difficultés qu'il y a à maîtriser la circulation du virus à l'échelle internationale. La deuxième, c'est qu'il y a une histoire aussi très franco-africaine de la vaccination contre la poliomyélite, guidée à l'Institut Mérieux. C'est que je parlais de l'importance de la simplicité pour que la vaccination s'impose aux individus, et c'est dans la zone de Kolda au Sénégal que Mérieux a testé un vaccin simplifié contre la poliomyélite qui a fait le succès de l'entreprise. Donc voilà, c'était une remarque.
Bon, en tout cas, ça gagne à être simplifié parce qu'on comprend avec Franck qu'il y a quand même des populations qui se posent beaucoup de questions là-dessus. Hein.
Oui, ça a toujours été un problème, la multiplication des rappels en santé publique. Un des grands enjeux, c'est de diminuer ce nombre d'injections.
En tout cas, on remercie Franck pour son appel. C'est vrai qu'en matière d'accueil de polémiques sur les vaccins, il y a une sorte d'histoire. Et vous le soulignez dans votre livre, il y a eu un vrai virage en France, Gaëtan Thomas. C'est au moment de la campagne contre l'hépatite B, une campagne qui avait été lancée en 1994. Il y a eu un avant et vraiment un après.
Oui, alors c'est une campagne qui a eu un retentissement énorme dans un contexte très particulier de turbulence en santé publique, parce que c'était l'épidémie de sida qui s'est déclarée en Occident en 1980, dont on a pris conscience en 1981, a remis en cause pas mal de fondamentaux dans la santé publique occidentale. Il y a eu beaucoup de crises en France, dont le sang contaminé. Et c'est vrai qu'il y a une très mauvaise gestion de la vaccination contre l'hépatite B qui est liée aussi aux craintes des acteurs de santé publique de ces crises. Et donc au début, il y a eu une exagération de la menace que représentait le virus. Et puis après, il y a eu une incapacité à comprendre l'ampleur de la crise sociale, ce qui fait que l'État était un petit peu dans le déni, puis s'est contredit. Il y avait des experts qui niaient l'existence d'effets secondaires, mais l'État, d'un autre côté, indemnisait, hein, contre notamment des scléroses en plaques, ce qui a créé un message assez brouillé. Et effectivement, ça a déstabilisé la santé publique. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces controverses dont on ne peut pas nier l'existence ne mettent pas à bas la vaccination, puisque tout au long des années 2000 et 2010, les taux de vaccination contre l'hépatite B ont énormément remonté, notamment parce que la vaccination contre l'hépatite B a été intégrée à un vaccin combiné qu'on administre aux enfants en bas âge. Donc on trouve des réponses techniques à ces questions de confiance très souvent.
Alors on va partir pour la Guinée, retrouver un autre auditeur en direct.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
C'est Ousmane qui est avec nous. Ousmane, bonjour.
Bonjour, Madame Caroline.
Alors, vous avez 55 ans, Ousmane. Vous, votre question, justement, elle porte sur l'hépatite B. Expliquez-nous ce qui s'est passé précisément.
Merci. Bonjour à RFI, bonjour à Priorité Santé. Au fait, c'est l'année dernière, j'avais suivi un débat concernant l'hépatite B autour de mon entourage.
Oui.
Donc, qui expliquait les dangers et comment prévenir cette maladie.
Oui.
Donc, du coup, je suis allé faire mon test après cette conversation. Mmh. J'ai trouvé que le résultat était négatif. Mmh. Donc, comme on parlait de la protection, on a dit avec la vaccination, ça, l'intéressé est protégé pour la vie.
Vous avez reçu une dose ?
J'ai reçu une dose, mais je n'ai pas. C'est une seule dose que j'ai prise. C'est après que dans des échanges, j'ai compris qu'il fallait faire des rappels. Donc ma question, c'est que est-ce que après 12 mois, tu sais, c'était au mois de mai.
Ah oui, la première injection, c'était il y a déjà plus d'un an. Donc, c'est pour savoir si maintenant vous pouvez encore recevoir la deuxième dose, c'est ça ?
La deuxième dose, ou bien il faut reprendre complètement la vaccination concernant cette hépatite.
Alors, je me tourne vers le référent de MSF en termes de vaccination. Docteur Mamadi Traoré, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditeur de Conakry, Ousmane ?
Oui, je peux dire à Ousmane qu'il est possible de reprendre la deuxième dose, voire même la troisième dose. Je m'explique. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande qu'en cas de retard de vaccination, y compris ça c'est valable pour les enfants, les adolescents et les adultes, il est recommandé d'utiliser 3 doses. La deuxième dose devant être administrée au moins 1 mois après la première et la troisième dose 6 mois après la première. Ainsi, il y a un deuxième segment vaccinal qui prévoit 2 doses de vaccin, espacé de 4 à 6 mois. Et ça, c'est beaucoup plus recommandé dans les contextes où la prévalence de l'hépatite B est basse. Mais quelle qu'en soit la tranche d'âge, il n'est pas nécessaire, en cas d'interruption du calendrier vaccinal, de reprendre toute la série de vaccinations.
Ça veut dire ce qui est recommandé aujourd'hui à Ousmane, c'est éventuellement de recevoir sa 2e dose maintenant et la 3e dans 6 mois. Si je résume, c'est ça.
Si je peux me permettre, vu qu'il a pris une première dose, dans son cas précis, et vu que la prévalence de l'hépatite B est un peu élevée en Guinée, dans son cas précis, je lui recommanderais de prendre la 2e dose maintenant et la 3e dose 4 semaines après.
À 4 semaines après, donc un schéma rapproché. Vous avez pris note, Ousmane, de ces recommandations ?
Oui, bien sûr.
Mais bien sûr. Évidemment, quand vous allez aller voir le médecin qui va vous vacciner, vous rediscutez de tout ça avec lui, vous lui reposez les questions et vous revoyez les choses sur ce qui se fait chez vous, hein, bien sûr.
D'accord.
Voilà. D'accord. Voilà. Ben, en tout cas, un grand merci. Question concrète et une réponse très intéressante du docteur Traoré. On vous remercie, Ousmane, pour votre appel. Des vaccins parfois anciens. Il y a eu, tout à l'heure, on citait le vaccin contre la variole. On sait aujourd'hui, on n'est plus vacciné. Moi, je suis de la vieille génération. J'ai encore été vacciné contre la variole humaine. Et puis, il y a des innovations. Il y a de nouvelles infections qui sont ciblées. Ça nous ramène à une question de Zora qui écoute RFI au Cameroun. Et elle demande à l'adolescence quels sont les vaccins administrés aux filles pour éviter les maladies comme le cancer du col de l'utérus. Alors, docteur Mamadi Traoré, Zora, dans sa question, évoque la vaccination des filles, mais désormais, dans un pays comme la France, elle est également recommandée pour les garçons.
Oui, exactement. Ce sont les vaccins contre le papilloma virus humain qui protègent contre le cancer du col de l'utérus. Et ce vaccin est recommandé, comme vous l'avez si bien dit, c'est les jeunes filles, mais également c'est les jeunes garçons, dépendant de la politique de chaque pays.
Et c'est vrai que cette vaccination, elle est vraiment importante, parce qu'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus, c'est le premier cancer féminin en termes de mortalité dans la région Afrique de l'OMS. En termes justement d'accès au vaccin, docteur Mamadi Traoré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que c'est un vaccin qui est cher pour les populations quand elles vivent, par exemple, en Afrique subsaharienne ?
Écoutez, aujourd'hui, comme vous le savez, la vaccination, c'est un acte gratuit. Les vaccins sont gratuits, les gens se font vacciner gratuitement. Et parlant de la question d'accès, je vais le situer à de nouveau. Au niveau global, comme je l'ai dit tantôt, il y a un problème de capacité de production de certains vaccins. J'ai pris l'exemple sur le vaccin contre le choléra, mais il y a également le nouveau vaccin de Takeda contre la dengue. Les demandes sont largement supérieures à l'offre. Et également, il faut noter, concernant la question d'accès aux vaccins, aux nouveaux pays, comment les populations, où qu'elles soient, et un accès équitable aux vaccins dont elles ont besoin tout au cours de leur vie. Mmh. Avoir les doses des vaccins disponibles dans les pays où les systèmes de santé sont fragilisés ne suffit pas. Mais comment administrer ces vaccins aux populations qui en ont besoin, cela reste un défi majeur. Comme on l'a dit, la vaccination, elle est gratuite, mais ce qu'on oublie souvent, c'est le coût d'opportunité. Et l'exemple de la RDC ou d'autres pays où les mamans doivent faire 5 km à pied et à pied. Et on oublie que ces mamans laissent d'autres enfants à la maison quelqu'un d'autre doit prendre charge. Et ces mamans vivent du jour le jour à la vente des légumes et autres.
Ça veut dire quoi pour être concret, docteur Traoré, qu'il faut faire davantage d'opérations de vaccination mobile vers les populations?
C'est un acte gratuit, mais il faudrait qu'on mette des stratégies appropriées. Si on s'attend à ce que toute la population vienne vers nous, on va rater une bonne proportion de la population. C'est pour ça qu'il y a des stratégies en place, stratégies mobiles et des stratégies avancées. Plus on part vers la population, cela permettra davantage d'augmenter la couverture vaccinale et ça permettrait de réduire le nombre de susceptibles et par conséquent réduire les épisodes épidémiques.
Tout à l'heure, il y avait la question de Zora avec cette couverture contre le papillomavirus, hein, HPV. Cette couverture vaccinale en France, elle reste assez faible par rapport à d'autres pays européens comme le Portugal, l'Espagne ou le Royaume-Uni. Gaëtan Thomas, est-ce qu'il y a des éléments pour expliquer pourquoi finalement les Français n'ont pas, en tout cas les ados, les parents des ados n'ont pas massivement emmené les enfants se faire vacciner ?
Bah, c'est une vaccination qui a un peu la même trajectoire en France que celle de la vaccination contre l'hépatite B. Il y a des recommandations qui ont à l'origine été très ciblées, hein, qui concernaient les jeunes femmes, qui ont été étendues aux homosexuels, aux jeunes homosexuels. Et aujourd'hui, on parle de vaccination compassionnelle pour les jeunes garçons hétérosexuels. Il y a des, disons qu'il y a des obstacles évidents dans le cas de cette vaccination, puisque c'est une vaccination qui est censée prévenir une maladie à transmission sexuelle. Donc, c'est des débats qui sont difficiles à avoir à un âge, l'adolescence, qui n'est pas non plus aisée pour la santé publique à atteindre. Mais il faut savoir que les taux sont pas aussi satisfaisant que les objectifs le souhaiteraient, mais dans l'histoire de la santé publique, l'introduction d'une nouvelle vaccination, ça prend du temps avant qu'on atteigne les taux idéaux. Mmh. Et moi, je pense que la trajectoire n'est pas si catastrophique.
On est à près de 40%, un peu plus de 40% sur les tranches d'âge, hein, parce que bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Ça veut dire que finalement, ça commence à vraiment prendre.
Bah, il faut regarder dans le détail, mais dans l'histoire de la santé publique, il y a quand même globalement une progression des taux de vaccination pour les nouveaux vaccins qui sont introduits. Il y a très rarement des vaccins qui n'arrivent pas aux taux idéaux. Et c'est notamment parce qu'on les intègre peu à peu au calendrier régulier de la petite enfance.
Avec de vraies innovations en matière de vaccins. Docteur Mamadi Traoré, on pense forcément à ce qui est en train de se faire. Ça commence par rapport au paludisme. Est-ce que MSF est également partie prenante des campagnes qui s'engagent aujourd'hui en Afrique ? On le rappelle, il y a deux nouveaux vaccins. Il y a des campagnes qui commencent dans certains pays, Afrique de l'Est ou Afrique de l'Ouest. Le schéma vaccinal, il est compliqué. Il y a 4 injections. La couverture pour la maladie, elle n'est pas optimisée. Ça veut dire que, attention, si on vaccine, on continue avec la moustiquaire. On continue avec la lutte antivectorielle à essayer de se débarrasser à tout prix des moustiques. On dort surtout quand on est enceinte et qu'on a un bébé sous la moustiquaire. Docteur Traoré, MSF commence à vacciner aussi contre le palu ?
Écoutez, à ce jour, on n'a pas encore commencé à vacciner contre le palu, mais nos équipes sont en discussion avec les différents ministères, les pays qui ont introduit ou qui comptent introduire le vaccin palu. Et en collaboration avec les autorités sanitaires, on pourra les appuyer dans la mesure du possible, surtout principalement au niveau de nos zones d'intervention. Voilà. Et puis, on a d'autres discussions avancées avec certains ministères. Comment on peut coupler ces nouveaux vaccins palu à la recherche scientifique pour répondre à d'autres questions sur la stratégie d'implémentation. Mmh. Voilà, c'est des discussions qui sont en cours, mais concrètement, on n'a pas encore commencé à participer activement à l'implémentation de ces vaccins.
Pour conclure, Gaëtan Thomas, quand on regarde ces stratégies, la sensibilisation, l'accueil, les résistances, essayez de comprendre pourquoi ça bloque. Et un petit peu, quand on lit votre livre, le sentiment général, c'est arrêter de passer par le jugement et puis aussi revenir à la réalité des chiffres. Regardez aujourd'hui, finalement, une minorité extrêmement active qui fait beaucoup de bruit et peut-être aussi la photo média qui leur donne beaucoup la parole. Là, c'est ce qu'on désigne désormais comme des anti-vax. Mais au fond, les gens se font vacciner, vaccinent les enfants et sont plutôt en faveur d'une vaccination.
Oui, je pense qu'on donne beaucoup, beaucoup d'attention aux oppositions les plus virulentes à la vaccination, dont on ne peut pas nier l'existence, mais dont les répercussions en termes de santé publique sont tout de même assez faibles, vu les chiffres les plus récents. Et ça nous permet pas aussi de comprendre d'autres questions, peut-être plus politiques, sur l'histoire de la vaccination, comme sa transformation. On parlait tout à l'heure du coût de la vaccination. C'est vrai que les individus, quand ils sont vaccinés, dans la plupart des pays, ne payent pas. Par contre, la vaccination, c'est un produit qui est devenu de plus en plus onéreux pour les États, et ça pose de nouvelles questions depuis les années 80 avec l'hépatite B. La vaccination s'est internationalisée à partir des années 70 parce que c'était l'intervention la plus coût-bénéfice, celle qui était la moins chère de santé publique. Ce n'est plus le cas.
Les vaccins ont changé.
Les vaccins ont changé. Il y a beaucoup de propriétés intellectuelles dans les vaccins. Il y a des nouvelles questions qui se posent, qui sont autrement plus politiques et sans doute plus importantes à traiter que les problèmes de fake news et de croyances.
Ça veut dire que quand l'un des inventeurs d'un vaccin les plus importants a donné gratuitement son vaccin, son idée, c'était vraiment une bonne idée.
Le vaccin Salk, vous faites référence au vaccin contre la poliomyélite, c'était un geste très très important dans l'histoire de la santé publique. Sa déclaration selon laquelle on ne peut pas breveter le soleil, c'était aussi très important pour l'acceptation de la vaccination. L'idée que c'est un produit qui sert avant tout la santé publique avant de servir des intérêts potentiellement économiques. Ça évidemment contribue à son acceptation.
On ne peut pas breveter le soleil, ce sera le mot de la fin. J'adore cette phrase. Grand merci à tous les deux pour votre participation, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Docteur Mamadi Traoré, merci à vous. Gaëtan Thomas, je rappelle le titre de ce livre. C'est vraiment très documenté, très intéressant, notamment tout le dossier sur la France-Afrique du vaccin que je vous recommande. Vaccination, histoire d'un consentement, publié aux éditions du Seuil. Et avant de se dire tout à fait au revoir, Major League et DJs et Abidosa avec Dina Lady dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Louise Kaledek, Talim Pou, Damien Roucou, Tom Malky, Didier Bleu et Oscar Jouxtel à la réalisation. Demain, on retrouvera un reportage long format de Priorité Santé signé Charlie Dupiot. Quand l'exposition aux polluants s'invite en consultation, santé environnement, consultation hospitalière dédiée à l'impact de l'usage des pesticides sur la santé des enfants, des travailleurs, des agriculteurs. Ça se passera au CHU d'Amiens ou au CHU de Bordeaux. Reportage à retrouver à 9h10 temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.